La laine colorée. Alors, il y a des interprétations à partir de là, parce qu'on peut tout dire à partir des. Alors, vous avez notre amie Brockmüller, la dame allemande qui a fait la thèse la plus récente sur le texte, et elle dit, oh, bah c'est pour dire que la sagesse concurrence le culte du temple. Donc, on représente la femme sous les habits du temple. Mais en fait, la vraie sagesse, ce n'est pas dans les sacrifices, c'est dans la sagesse quotidienne. C'est ce que dit le poème, non? Voilà la thèse allemande. Il y a une dame autrichienne qui est directrice d'un institut à la Cato de. En Autriche. Grâce. Et alors, elle trouve que, au contraire, donc elle dit le contraire, cette femme qui est habillée comme un prêtre ou comme la demeure, comme la tente, elle est comme la tente du désert, eh bien, elle enseigne la Torah, alors que notre spécialiste israélien et israélite dit, oh non, non, ça c'est une. Si l'israélite dit qu'elle n'enseigne pas la Torah, c'est pas la dame autrichienne, chrétienne, catholique qui a raison. Enfin, elle trouve ça, et puis elle dit que cette femme est habillée comme un prêtre, et elle regrette que dans certaines églises, le sacerdoce féminin ne soit pas souhaité. Vous voyez? Donc, l'une et l'autre chose sont des contraires. Donc, on avance. Vous savez donc qu'Exode 25 à 40, c'est la demeure dans le désert, mais. Vous savez peut-être hein, que ça évoque le second temple, que ça fait partie de la rédaction de l'auteur P, priesteur, prêtre, l'auteur sacerdotal. Et vous savez aussi que ces chapitres, alors 21, 25 à 31 et 35 à 40, ils encadrent quelque chose au milieu. Qu'est-ce qu'il y a au milieu des instructions sur la demeure, sanctuaire et sa mise en œuvre? Au milieu, il y a le veau d'or, le péché du veau d'or, le récit du péché du veau d'or, et le don des deuxièmes tables. Et juste avant ce don des deuxièmes tables, le Seigneur, le tétragramme, hein, que notre père dit Adonai, donc je vais faire comme lui parce qu'on doit le faire. Hein, donc, il dit là, Adonai, je suis le miséricordieux. Il y a vraiment une accumulation de termes qui disent sa miséricorde, juste avant qu'il donne les deuxièmes tables de la loi à Moïse. Vous voyez bien qu'au centre des chapitres sur le sanctuaire du désert, qui en fait représente le deuxième temple, celui de reconstruit après le retour d'Exil, eh bien. Cette description de la demeure encadre le grave péché israélite, le péché par excellence, le péché d'idolâtrie. Israélite, son identité, elle mise sur le fait qu'il renonce à l'idolâtrie. Et sur le don des deuxièmes tables. Donc, un renouvellement, un recommencement du don de Dieu. On peut parler d'une deutérose, mais après ça fait un peu savant. Voilà. Alors, vous savez que ces chapitres d'Exode font partie d'un ensemble écrit par le rédacteur sacerdotal qui commence au premier chapitre de la Genèse. Hein. Toute la rédaction sacerdotale reprend l'ensemble du début du Pentateuque, et va même jusqu'au bout, je pense, mais en fait c'est une rédaction qui reprend les choses après l'exil. Josias avait commencé à travailler sur les traditions qui sont les traditions des patriarches. On le voit à certains détails. Il avait aussi commencé à travailler sur Moïse. Mais le sacerdotal reprend tout ça dans sa rédaction. Hein, et donc, avec la perspective de sortir du chaos. Hein, la création en Genèse 1, c'est une sortie de chaos. Et l'exil, ça doit être une sortie de chaos. Ça, vous le savez, quelque part, hein, dans la main de votre tête. Hein, et donc, on a le paradis et ça se termine au paradis du temple, parce que le temple abrite l'arbre de vie avec les chérubins devant, comme le dit la fin du deuxième récit de création. Ça, c'est des choses qui sont dans les textes du Père Bernard, les polis. Hein. Bon. Donc, pour avancer, je reprends Madame Allemande. Elle dit, oh oui, il y a vraiment certains passages, notamment celui que j'ai recopié, qui sont très très proches, alors en français ça ne se voit pas, mais qui sont très très proches du poème. Et j'ai mis en évidence un certain nombre de choses dans ces versets, donc l'Exode 35, hein, et j'attire votre attention sur le fait que, d'abord, il en va de la contribution du Seigneur, la Teruma. Et il faut être généreux, et donc elle est mentionnée deux fois, cette contribution. C'est-à-dire que la petite explication qui est en dessous vous aide à comprendre l'enjeu. Il faut, pour le voir, rassembler tous les passages sur la Teruma. Il en va du rachat de la vie de l'Israélite. Donc c'est véritablement, certainement, un levier du dispositif de salut du Second Temple. Mais ce qui est à remarquer, c'est que nous avons précisément dans ce pavé, ce petit pavé, deux fois la série des trois tissus que j'ai commencé par indiquer. Donc le pourpre, le cramoisi et le lin. Donc vous voyez, c'est une des nombreuses occurrences, des 23 occurrences. Là, il y en a deux dans ce petit passage. Donc ça montre qu'il doit être effectivement important. Et la troisième chose, vous voyez la petite biquette qui est sur le côté. N'oubliez pas, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a du poil de chèvre qui se mêle au tissu. Et donc, on a des tissus hybrides avec du lin et de la laine. C'était interdit de porter du lin et de la laine ensemble, mais au sanctuaire, ça se faisait, c'était les habits de sainteté. Et ces femmes y ajoutent, enfin, du poil de chèvre, il y a déjà de la laine, mais il y a ces femmes qui sont des fileuses. Donc, c'est étonnant, elles sont qualifiées de sages. Donc on a ici un collectif féminin, fileur. Pour vous mettre les idées plus au clair sur cette histoire de tissu hybride, j'ai reproduit Deutéronome 22, 11, 12, dans la petite case du bas. À côté, j'ai mis qu'il y a un parallèle en Lévitique 19, 19. Parce qu'il faut bien comprendre ce passage. D'ailleurs, même Rashi explique bien cela. Pour un juif, ça ne pose pas de problème. Mais les chrétiens, ils n'ont pas compris tout de suite. La Tob, elle présente très bien le texte. Elle dissocie les versets 9-11 du verset 12. Parce qu'il ne faut pas faire d'hybride, mélanger la laine et le lin, c'est faire de l'hybride, du charapnez, mais il faut quand même porter un vêtement avec des glands et qui lui-même est un vêtement de sainteté. Et les vêtements de sainteté pour les fêtes, le Shabbat et le vêtement sacerdotal devaient être de laine et de lin. Et donc, vous voyez, en 13a, on a aussi de la laine et du lin. Ça, c'est très intéressant, le style de 13a. Elle va chercher avec soin de la laine et du lin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le commentateur israélien du XXe siècle, il dit, oh, attention, elle les travaille séparément. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que, effectivement, au profane, il faut séparer, on ne fait pas de textiles mélangés, de même que pour la nourriture, etc. Hein? Mais si dans ce stick nous avons les deux mélangés, mentionnés ensemble, ce n'est pas anodin. Il y a une signification symbolique. Et donc ce stick, nous le laissons en suspens pour demain matin. Mais je passe donc au point 2. Le point 2, hein, dans le noir, en blanc, les petits 2. Et c'est encore du tissu. Et ça, c'est la maisonnée dont il est question. La maisonnée, eh bien, cette femme, elle ne craint pas la neige pour elle, sa maisonnée. Parce que tous, alors que la tome dit, ont double vêtement. Et là, il y a encore un jeu de mots. Parce que chanin, c'est le fameux cramoisi, mais ça veut aussi pouvoir être lu comme chenaille, deux, double. Alors, le sens évident, c'est qu'ils sont habillés double, parce qu'il y a de la neige. C'est évident, hein ? Vous êtes d'accord avec moi, quand il y a de la neige, pour ne pas avoir froid, il faut avoir double vêtement. C'est le sens littéral, le sens objet. Pourtant, le texte massorétique et la tradition rabbinique met la couleur rouge. Et la thésarde allemande dit « Oh, mais c'est rouge, mon Dieu, c'est rouge !» Ouais, elle n'a pas tort. Mais derrière, donc, c'est le sens symbolique. Elle n'a pas dit, cette dame, qu'il y avait le sens symbolique derrière. Et ça fait allusion à Isaïe qui dit « Vos péchés comme la neige, rouge, écarlate, deviendront comme la neige. » Donc, j'ai intitulé cela « Le vêtement du pécheur qui va être pardonné ». Donc, c'est encore un vêtement pour le culte du temple. Voilà. Mais même le mot « double » est cultuel. Parce que, souvenez-vous, il y a une deuxième table. Il y a la deutérose. Dieu a donné des deuxième tables de la loi après le péché grave du veau d'or. Vous voyez ce jeu incroyable, rien que sur ce mot qui veut dire à la fois rouge et double. À la fois, c'est vrai, il y a le sens littéral. Maurice Gilbert a raison. Il fait froid, il y a de la neige, et bien donc il y a double vêtement. Voilà pour le machal. C'est une petite histoire profane, c'est logique. Elle habite bien sa maisonnée, c'est une bonne maîtresse de maison, une mère de famille, et même pour toutes les servantes et les travailleurs du textile. Mais en dessous, quand les lecteurs qu'avait notre auteur, ils voient bien que c'est à la fois la couleur rouge, d'ailleurs ils l'ont gardée dans leur tradition, et que c'est aussi double. Ça fait allusion au fait que Dieu a dû redonner l'alliance, renouveler l'alliance. Donc c'est bien ce qui est au cœur d'Exode 25 à 40, le renouvellement de l'alliance. Alors pour mieux comprendre ça, je vous propose d'aller page 3, pas tout en haut, mais à partir des grosses lettres, après l'exil, au deuxième tiers. Et on va regarder jusqu'en bas, parce que donc, après l'exil, qui a montré le péché, ça c'est la logique rétributive de Tournis notamment, hein. Si on a eu l'exil, c'est qu'on a péché. Et donc, Israël est sous le régime du renouvellement de l'Alliance. C'est bien ce que disent les chapitres d'Exode sur la demeure. C'est ça que célèbre le culte du second temple. Donc si on veut chercher ce qui se passe dans le culte du second temple, l'enjeu, c'est cette alliance renouvelée que le texte d'Exode met bien comme centrale dans les chapitres qui décrivent le sanctuaire. Et on peut voir en Jubilé 6, qui n'est pas très éloigné au niveau chronologique de nos auteurs, quelque chose de très intéressant, parce que ce qu'il fait, l'auteur de Jubilé au chapitre 6, c'est qu'il parle du renouvellement de l'Alliance. Mais c'est rigolo, parce qu'il relie, il dit, elle a été célébrée, la fête du renouvellement de l'Alliance, au ciel, au paradis. Et puis, elle a été aussi célébrée à l'époque de Noé. Et puis, toi Moïse, ils l'ont oublié à ton époque, il y a eu le veau d'or. Et donc, tu l'as restauré. Donc, vous voyez, là, ici, Jubilé, c'est un réflexe, cela, du judaïsme après l'exil et intertestamentaire. C'est qu'il montre le lien. C'était dans la mentalité du judaïsme, mais c'est explicité. Là, ce que célèbre le Second Temple, c'est déjà. Donc, c'est ce renouvellement de l'Alliance, puisque Dieu est miséricordieux, donc il pardonne le pire péché d'idolâtrie après l'exil, qui a signifié le grave péché d'Israël, c'est célébré. Mais c'est enraciné, c'était déjà ce qui était en jeu au moment de Noé, parce que ça c'est de la rédaction sacerdotale, et il y a une portée universelle à l'Alliance Noachide, hein, et la promesse c'est qu'il n'y aura plus de déluge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grave péché dans la pensée sacerdotale. Le temple est là, le Yom Kippour notamment. Mais, encore mieux donc, il y a cet enracinement en disant que c'était déjà au ciel. Le renouvellement de l'Alliance, il est déjà célébré au ciel. Donc d'une pique, ça, il faut vraiment bien le voir, parce que à quoi peut-on raccrocher cela dans les textes? Eh bien, si vous vous souvenez de ce que vous avez étudié sur Genèse 2-3, vous savez qu'à la fin du texte, il peut avoir un plan, si on veut, on peut trouver un plan de traité d'alliance. Et à la fin, il y a une reprise d'alliance, notamment avec le fait que Ève reçoit son nom, enfin la femme reçoit le nom de mère des vivants, et aussi la peau, les vêtements de peau donnés par Dieu à l'humanité. Et ça repart pour une nouvelle génération. Des peaux de bêtes, on n'est plus végétarien, on va pouvoir être chasseur. C'est la reprise d'alliance. Et donc, Jubilé 6 a bien mis tout ça en chapelet, il a accroché comme des petits maillots les célébrations de l'alliance, du renouvellement de l'alliance, jusqu'au ciel. C'est-à-dire que ça tient bon, il n'y a plus de péché grave en Israël, le temple est là. Et c'est aussi Siracide 17 qu'il faut regarder, parce que là c'est aussi très étonnant, quand on lit comme ça, on passe, on dit bon, c'est un peu bizarre, mais quand on fait attention, on voit que sont entremêlés Genèse 1 et Genèse 2-3. Parce qu'on voit que l'homme est tout de suite créé mortel. Donc, en fait, c'est étonnant parce que c'est seulement après que on lise que le Seigneur a créé l'homme de la terre et il y a fait retourner, donc il est mortel, ça c'est Genèse 2-3, mais c'est dit avant qu'on lise que l'homme est fait à l'image. C'est bizarre, non? Ça c'est en Genèse 1 normalement. Bon. Et puis, quand il dit qu'il les a revêtus de force, Siracide dit, il les a revêtus de force. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Où est-ce qu'on trouve le vêtement de force? Eh bien, je vous donne la clé, mais il faut penser à ce vêtement de peau qu'a donné le Seigneur, le vêtement de peau en Genèse 3-21. Donc, en fait, ce passage de Siracide nous montre qu'il y a une espèce de barre d'addition qui est tirée, c'est-à-dire que on voit par exemple que Dieu a montré le bien et le mal. C'est ce que dit Dieu à la fin. Ils sont comme l'un de nous. Ils connaissent le bien et le mal, attention. Mais c'est ce que prennent pour acquis les gens du second temps. Ils connaissent le bien et le mal, c'est fait. Ils connaissent la Torah. Et donc, ils ont cette loi de vie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Le péché est assumé. L'homme est pécheur et mortel, hein, mais il est pardonné. Ils connaissent le bien et le mal, ils ont la Torah. Et donc, ils ont la crainte, la peur dans le cœur, et c'est une alliance éternelle, c'est-à-dire qui n'est plus conditionnelle comme l'alliance du Deutéronome, qui vaut. Et on a même un Sinaï, à la fin, c'est 13-14, parce que quand on voit et qu'on entend la gloire divine, c'est au Sinaï, en Exode, premier don de la Torah. Et ce qui est remarquable, c'est que nous retrouvons ici le commandement de l'amour du prochain, le commandement de la charité envers le prochain. Et c'est étonnant parce qu'il ne mentionne que celui-là, il ne mentionne pas les 10, ni les 32 plus tard. C'est vraiment remarquable que dans ce texte du Siracide, ce soit encore la charité qui vit. Ça montre qu'au milieu de l'époque du Second Temple, à la fin de l'époque perse et au début de l'époque grecque, la charité était un commandement capital. Et donc, j'ai pas eu le temps de le dire ce matin, mais ça s'appuie sur une théologie de l'homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu est le grand charitable, dans la reprise d'alliance, il pardonne. Et c'est ainsi que l'Israélite est invité à faire l'aumône. Voilà. Et on voit encore ça plus tard dans le petit livre de la sagesse, parce que, bon, il est presque contemporain du Nouveau Testament, un tout petit peu avant, hein. Mais il dit encore, ouais, la sagesse, elle habite au temple. Donc c'est bien du culte du temple qu'il s'agit, et la sagesse israélite, qui délivre Adam. Il est délivré, il n'y a plus de soucis, il n'est pas en enfer. Et les saints. Voilà. Donc c'est l'enjeu de cela qu'il y a avec cette deuxième donation des tables de la loi, cette deuxième vêture, ou cette vêture d'or, ou cette vêture rouge et blanche, bien hybride en laine et en lin. Voilà. Et donc, ensuite, le point 4, je le passe, mais je l'ai mentionné parce que ça fait partie des textiles. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça va comme ça. Mais je l'ai mis en comme ça, vous voyez qu'il faut, il y a encore du tissu quelque part. Hein. Un paresseux dirait, il y a ce qu'il faut pour aller dormir. Des draps et de la couverture. Un drap et des couvertures. Bon. Mais je voudrais venir aux ceintures, avec le point 5, parce que dans le texte, on voit qu'elle se ceint, la femme, de force, en 17a. Elle ceint de force ses reins. Bon. Donc, elle a une ceinture, en fait. C'est un mot qui veut dire force et gloire. Il y a des études qui le montrent, notamment Aitken, c'est le premier qui me l'a fait voir, mais après, je me suis rendu compte que les gens qui étudiaient la question étaient d'accord. C'est un vêtement de gloire, mais qui est un vêtement de force en même temps. Donc, on ne peut pas traduire en français par deux mots. Hein. Et si vous regardez en 25a, on en rajoute force, gloire et honneur. Et c'est l'expression, c'est une expression qui désigne la vêture divine, l'habit de Dieu qui est habillé de gloire et d'honneur. Et donc, cette femme, elle a un vêtement glorieux, elle est un peu comme la présence de Yahvé, pardon, d'Adonai. Hein, je peux m'excuser. Donc, ça a été repéré. La femme du poème, elle fait, mais elle est aussi comme le Seigneur. Et la tradition juive dit, oh, mais la femme vaillante, c'est la tante, c'est la Torah, c'est la sagesse, oui, mais attention, c'est la Shekhina. Présence de Dieu au milieu des siens. Alors, notre texte ne dit pas que c'est la Shekhina, mais les jeunes ont remarqué qu'elle a tous les traits, enfin, bien des traits de la femme, au niveau symbolique, font penser à la présence divine. Et donc, elle est habillée de gloire. Et, cependant, si vous regardez 22b, enfin, 22b, ses vêtements sont de lin et de pourpre, eh bien, c'est exactement un stick parallèle à 25A. Ses vêtements sont de gloire et d'honneur. C'est deux façons de dire la même chose, mais de façon très riche. Donc, d'une part, vous voyez en 22B, ses vêtements sont de lin et de pourpre. Ça veut dire qu'elle porte les vêtements comme la demeure du désert, des vêtements cultuelle, la tante ou les prêtres, comme disaient nos Allemandes, et aussi des vêtements d'or. C'est exactement la même chose parce que la tradition juive parle de vêtements d'or, des vêtements dorés, des vêtements glorieux. Alors, nous avançons. Je vous ai fait remarquer qu'il y avait au milieu des versets de textile et vêtements un verset sans mention. Vestimentaire. Oh, c'est drôle. Bah, et c'est qui est là? C'est le mari. Bon, pensez bien qu'il n'est pas moins bien habillé. C'est évident. Hein? Il n'est pas moins bien habillé que son épouse. Bon. Et donc, je suggère, et nous le verrons, vous allez en être convaincus bientôt, enfin, d'ici demain, que nous avons affaire à un couple de justes. C'est-à-dire que cette dame fait la charité comme Dieu fait la charité à son peuple. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux portes. Alors, ce n'est pas un paresseux qui va plastronner, hein, parce que les portes, c'est le lieu du tribunal. Donc, il rend la justice. Et on peut penser qu'il fait droit aux pauvres. C'est-à-dire que s'il est bien une image de Dieu, eh bien, il rend la justice aux pauvres, il fait droit aux pauvres, il ne le laisse pas tomber. Et puis, s'il siège avec les anciens, au style 23B, ce mari, entre guillemets, eh bien, ça fait une allusion au Shabbat. Vous voyez, le paresseux de mari qui profite de son épouse. C'est, oui, mais c'est réussi, parce que le machal, ça doit faire rire. Le sens littéral du machal, c'est vrai, c'est une dame qui s'agite dans tous les coins. Et lui, bah, voilà, il compte sur elle et puis il va se promener aux portes. Mais il faut le tenir, c'est voulu. Mais en même temps, derrière, il y a l'homme en habit. Mais c'est très discret, puisqu'on ne le dit pas qu'il est habillé comme cette dame. Ça tombe sous le sens. Et il est probablement au Shabbat. Et le thème du Shabbat est très important dans le passage d'Exode qu'on a dit, hein, et il en va de la sanctification d'Israël par le Seigneur de d'observer le Shabbat. Et il y a Fletcher Louis, que beaucoup de jeunes trouvent un peu bizarre, mais il a pas tort quand il dit que les chants du Shabbat de Qumran ne sont pas si déconnectés, dualistes, etc., sectaires, par rapport à la grande veine du temple. Il montre que ça y a une grande parenté. Et donc, on voit un petit peu l'enjeu de cette affaire, c'est-à-dire que c'est le sommet de l'humanité quand elle est vêtue ainsi. Et on a même une trace de rabbin au moment de la destruction du temple. Donc, il portait encore une tradition ancienne, et il portait encore cette tenue-là en Shabbat. Et ses disciples sont là, puis ils cachent leurs vêtements, parce qu'eux, ils ont plus. Ils ont des vêtements, les franges ne sont pas tout à fait comme celles du maître qui a l'air d'un ange. Donc, on a une tradition du second temple où ces vêtements étaient véritablement des vêtements de sainteté, hein, et qui étaient des vêtements de fête, de Shabbat. Et je termine presque. Ça va, mes censeurs ? Nous sommes donc, très important, devant deux porteurs de ceinture, parce qu'il y en a une sur la dame qui se la met, mais elle en donne une à un Cananéen. Alors, Boris Gilbert dit, c'est le marchand ambulant, point final. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un marchand ambulant. Et c'est vrai que ça fait sens. Le sens littéral est valable, bien sûr. C'est le marchand. Bon, donc, la petite histoire, elle décrit une femme qui... Mais si on fait attention, on voit bien qu'elle ne vend pas. Elle ne vend pas, enfin, il n'est pas dit qu'elle vend sa ceinture, ni même qu'elle fait du troc. La dame allemande, dans la thèse, a dit « Oh, ben, c'est contre de la teinture, parce que le Cananéen fabriquait la couleur rouge. C'était leur métier. Les Phéniciens, c'était eux qui fabriquaient la couleur rouge. » Ce n'est pas dit, on dit qu'elle la donne, cette ceinture. Et donc, là, vous devez ramasser toutes vos idées sur Jacob pêcheur. Hein ? Et donc, le Cananéen, notamment en Osée 12, c'est Jacob. C'est dit là qu'il est. C'est Canaan, alors que notre texte dit Cananéen. Bon, mais il y a un tas de mots qui montrent que ce Cananéen, mais on verra peut-être demain mieux, mais on dit c'est le mari, c'est le Jacob coquin. Vous savez qu'en Osée 12, donc, le prophète sermonne Jacob, tu es un trompeur, tu as roulé la bande, tu aimes à rouler les gens. Hein, bon. Alors il y a tout un enjeu d'Osée 12, je n'y reviens pas parce que ce n'est pas mon sujet, mais le Cananéen, ça désigne encore le peuple pécheur. Et donc, la ceinture, c'est pour lui. Et si vous regardez dans nos chapitres d'Exode, la dernière pièce vestimentaire du grand prêtre, c'est la ceinture. Ah, alors on avait une tradition, on se demandait ce que c'était, on trouvait ça bizarre, sur le sacerdoce des patriarches. Les chercheurs avaient trouvé ça dans l'Intertestament. On se disait, Eh bien, notre texte montre qu'on a ici un jalon de cette tradition. C'est-à-dire que l'habit sacerdotal de la femme vaillante et de son mari, et la ceinture du grand prêtre, eh bien, ça nous montre que l'idée que Jacob a un habit sacerdotal et qu'il porte l'habit du grand prêtre, eh bien, elle est connue des gens. Alors, j'ai envie de regarder tout de suite le petit paragraphe pour l'israélite traditionnel. Parce que, c'est fini. Jacob, vous savez que c'est... Il est venu après Ésaü, il tient son talon, et il s'appelle talon, Yaakov. Et ça veut dire que c'est fait pour piétiner un talon. Et le protévangile, vous le connaissez, c'est le serpent qui va atteindre la descendance de la femme au talon, et celle-ci le piétinera. Et notre Jacob, il va recevoir l'appui d'Ésaü, parce que sa maman va lui faire un régal pour tromper la vigilance du papa et obtenir la bénédiction d'Ésaü. Et donc c'est lui qui va devenir l'aîné, et c'est lui qui va devenir le grand prêtre, ou le prêtre plutôt, avant Aaron. Les patriarches, les aînés des patriarches avant Aaron, c'était eux les prêtres. Et donc dans notre texte, même scripturaire, on voit cette tradition déjà se profiler, c'est-à-dire que le vêtement d'Ésaü, le pécheur, mais l'aîné, avec des chevreaux, d'accord ? Eh bien, il passe à Jacob. Voilà. Et donc, avec cette ceinture, les deux pécheurs de ceinture, hein, et le fait que nous ayons un pécheur, un Jacob pécheur, eh bien, ça fait que vous devez comprendre, et je termine, notre texte montre une humanité à la fois comme au paradis, quand ils se font des ceintures, puisque la femme en porte et qu'elle en donne à son mari, mais aussi au niveau israélite. Saint Paul aura encore ça en tête. Il parle de l'homme avec Israël d'abord. C'est encore cette structure-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une représentation de porteurs de ceinture contre, qui inverse la chute, puisqu'ils sont glorifiés par le culte du temple, dans le renouvellement de l'Alliance. Donc c'est nouvel Adam ou nouvel Ève, mais aussi nouveau Jacob, avec Rebecca, qui est sa maman, hein, qui est aussi, on va le voir demain, une nouvelle Rebecca. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Odile. Ah, pardon, voilà. Merci, Marie-Odile. Donc, on va essayer aussi de s'arrêter un peu sur ce qu'on a entendu. C'était dense. Donc, peut-être pas si facile que ça à reprendre, peut-être un petit peu moins facile que ce matin, surtout que c'est après le repas. Alors, peut-être, juste peut-être pour nous aider, tu me diras, Marie-Odile, la question ne convenait pas, tu me le dis. C'est pour nous aider un petit peu à recueillir au moins certaines choses. Hein. Pas forcément. Tout ce qu'on a entendu, c'était en rapport avec le textile, vêtements, couverture, ceinture. Alors, à quelle réalité avec un S cela renvoie ? Ça va ? Des questions ? À quelle réalité, avec un S, hein, au pluriel, tout ce qu'on a entendu, ça renvoie. Voilà, je pense qu'on n'arrivera pas à faire un truc très très structuré, mais au moins si on arrive à cueillir certaines choses, peut-être que les choses reprendront aussi une cohérence avec la suite. Et voilà. Alors, juste, on ne va pas faire une remontée de ce que vous avez noté. Juste, je vois que moi, ce qui m'a semblé très important, c'est que finalement, tout ce qui a été dit là sur les vêtements, sur la ceinture, ça renvoie à des réalités extrêmement importantes dans la foi juive. Par exemple, la charité, les œuvres de charité, l'idée du judaïsme, la question de la justice, être juste, donc c'est toute la pratique de la Torah qui est derrière, et puis la question du pardon, avec le renouvellement de l'alliance, qui est aussi une question absolument fondamentale dans tout le judaïsme. On ne va pas forcément aller plus loin maintenant, on va passer la parole. Oui.
Il y a trois petites remarques qui m'ont beaucoup intéressé, je peux faire le lien. D'abord, c'est intéressant d'être très intéressé parce que quand on lit le livre des chroniques, la description du temple dans le livre des chroniques est plus proche du récit de la tente du désert que du récit du temple dans le livre des rois. C'est-à-dire que le modèle qu'il a, c'est la tente du désert. On le voit très bien dans le détail. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me semble très intéressant, c'est dans votre rapprochement avec Séracide 17, on peut aller un tout petit peu plus loin et rappeler ce verset qui achève l'Alliance Nouvelle selon Jérémie. C'est le verset 34, Jérémie 31, 34. Ils ne s'inspireront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprends-moi à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracles du Seigneur. » Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. On retrouve ça également chez Ézéchiel. Et puis il y a un autre point qui m'a intéressé, c'est que vous le savez aussi bien que moi, c'est que dans la tradition juive, Adam n'est pas nu, mais il est couvert de lumière. Et on rapproche le mot peau et le mot or, lumière, qui sont très proches en hébreu, puisqu'il y a juste un palais d'un côté, un règne de l'autre, et donc la peau et la lumière. Et donc Dieu revêt de lumière Adam. Et ça rejoint ce que vous disiez. Et chacun le montre très bien.
Dans le chapitre 1 de Luc, quand on dit que Marie revêtait et voilà, descendre la nuée, est-ce qu'on pourrait l'apparenter au mot habillé de lumière ou revêtu de lumière?
Non, c'est à mettre, à mon sens, à mettre totalement en relation avec la finale de l'Exode. Quand en Exode 40, quand Moïse et Aaron veulent rentrer dans la tente de la rencontre, ils ne peuvent pas rentrer parce que la nuée emplit la tente, et ça veut dire la présence de Dieu. Donc Marie, elle est remplie comme le sanctuaire est rempli à la fin de l'Exode. Marie devient le sanctuaire et la tente de la rencontre, le tabernacle du désert, c'est le Christ dans le corps de Marie. C'est Exode 40.
Oui,
mais c'est Exode 40, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est très proche, parce qu'on dit qu'il ne peut pas rentrer dans la tente, parce que la nuée remplissait la tente. Comme Marie, d'ailleurs, est remplie d'Esprit Saint. C'est très proche. C'est-à-dire que Marie devient la marche d'alliance, ce qui fait que Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, chante, danse devant Marie, comme David danse devant l'arche. Eh bien oui, citation.
Oui, mais c'est à moi, je vais travailler d'abord. Voilà. Oh, c'est plus facile à vous dire avec ça. Voilà. Thank you.
regardez, c'est la finale de l'Exode. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Et bien, c'est exactement le verset de ça. Et c'est Exode 40, verset 34. Et on vous dit, Moïse ne va rentrer dans la tente car la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Et on vous dit que la nuée du Seigneur était sur la demeure, elle était jour et nuit, exactement comme. C'est donc la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc ce que signifie l'ange Marie, c'est que en son corps, la demeure de Dieu se rend présente. Saint Jean le fait pareil, puisqu'il parle de Dieu qui a planté sa tente, la skuné. C'est skuné en grec, et tente, planter sa tente. Voilà. Et vous voyez que l'incarnation pour Jean, la fin du prologue, c'est Dieu qui plante sa tente parmi les hommes.
Ce qui provient, c'est la coloration sacerdotale.
Pardon ?
Chapitre
1, lui, il est sacerdotal. Ah, complètement. Oui, sauf qu'il ne sait pas qu'il est sacerdotal, mais il est pleinement biblique, je dirais. Voilà. Bien. Alors, on va faire une opération. Non, ça, on le fera après. Hein. Alors, ce que je vous propose, on vous a distribué une synopse.
Non.
Si, on t'a dit. Voilà. Voilà. Il y a peut-être des papiers qui traînent quelque part. Il y a donc l'oracle dynastique, à la fois, on dispose de combien de temps pour savoir si on fait un travail de groupe ou s'il faut que je parle directement. De quand à quand je dispose?
En fait, vous avez besoin, je pense, d'une demi-heure ou trois quarts d'heure pour être exposé après.
Pas beaucoup, là je crois que je vais vous faire le travail parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Mais vous avez le texte, messieurs. Tant pis. Voilà. Mais voilà. Je vais vous montrer. Donc, on va faire au gros. Non, parce que j'ai trop de choses à vous dire et ça, ce serait trop. Je risque de rendre la chose impossible ici. Voilà. Donc, j'aimerais vous montrer comment, effectivement, un oracle important, qui est l'oracle dynastique, est relu par le chroniste. Est réinterprété dans un sens totalement différent. Et donc, vous avez, par contre, gardé sous les yeux les deux textes, une traduction en synopse des deux textes. C'est l'oracle dynastique.